Alors bonjour, maintenant nous recevons M. Jean Rémiard de l'Association de promotion des usages de la quasi-turbine qui viendra justement nous parler de ce fameux moteur, la quasi-turbine. Alors bonjour M. Rémiard.
Oui, bonjour M. Bélanger.
Alors qu'est-ce que la quasi-turbine?
La quasi-turbine, c'est un moteur qui tourne et non pas qui pistonne, essentiellement, en deux mots, c'est ça. C'est-à-dire qu'un inventeur québécois, M. Gilles Saint-Hilaire, qui est un PhD en physique, là, il a mis au point un système qui fait que, au lieu d'avoir des pistons qui montent et qui descendent, c'est un moteur qui tourne à l'intérieur, non pas d'un cercle, mais comme un cercle écrasé un peu. Et ce qui fait que ce moteur-là a une densité d'énergie absolument considérable comparée aux autres moteurs. Et il y a des vertus non polluantes absolument extraordinaires. Alors, je pourrais vous en parler pendant des heures, là, mais il s'agirait peut-être de courir à l'essentiel.
Oui, dans des économies d'énergie importantes de carburant, je crois.
Oui, exactement, parce que quand le moteur sera prêt dans un an ou deux à fonctionner en mode photodétonation, il va y avoir une économie de 60 % de carburant rien qu'à ce chapitre-là.
Ce qui est très important quand même.
Absolument. Et la photodétonation, c'est un mode de déclenchement de l'allumage qui est absolument impossible dans le moteur à piston. Mm. Puis c'est justement ce que l'Imperial College de Londres, sur son site Internet, a trouvé de remarquable à propos de la quasi-turbine, c'est que c'est le seul moteur qui l'autorise de façon efficace. Mm. Et parce que la photodétonation, c'est un déclenchement de l'explosion par compression, un peu comme dans un moteur diesel. Et normalement, un moteur à piston, il photodétonnerait assez souvent si on ne mettait pas des additifs qu'on appelle des additifs antiphotoniques pour empêcher justement qu'il explose trop tôt, quoi, que le mélange explose trop tôt. Mmh. Alors, dans un moteur à piston, la photodétonation a comme conséquence d'endommager le moteur et de le casser. Mais la quasi-turbine est le moteur idéal pour recevoir ce mode de déclenchement de la carburation, quoi.
C'est une invention québécoise qui date de combien de temps, M. Rémy?
En fait, la famille Saint-Hilaire a travaillé sur ce nouveau concept depuis à peu près 1991-92. Mais ils ont suivi une démarche scientifique extrêmement rigoureuse. Ils ont commencé par modéliser mathématiquement les moteurs qui existent, à savoir le moteur à piston, le moteur Wankel, qui est un autre moteur rotatif, mais qui ne marche pas très bien, et les turbines d'avion principalement. Après ça, ils ont étudié 1800 brevets de tous les pays là, pour voir quels étaient les systèmes de moteurs qui auraient pu être plus intéressants. Ils ont dégagé, en fait, 14 caractéristiques des moteurs qu'il fallait absolument améliorer. Et là, ils ont travaillé sur des modèles et des paradigmes totalement différents pendant à peu près 2 ans. Puis là, ils sont revenus avec cette idée de la quasi-turbine qui, théoriquement, solutionne les 14 problèmes principaux. Mm. Mais le brevet a été obtenu seulement en l'an 2000. Il y a un brevet américain qui a été demandé, je pense, c'est autour de 98. Donc, ça fait déjà 6 ans là, que le concept est pas mal au point.
Oui.
Mais il n'est
pas encore commercialisé?
Pas commercialisé encore parce que l'inventeur, actuellement, il n'a pas de financement venant des États, des gouvernements. C'est lui et sa famille, ces deux garçons qui sont des bolés en informatique, comme on dit, là. Et qui, donc, finance la recherche. Et pour l'instant, on espérerait bien avoir des aides de l'État si jamais les États canadiens, québécois comprenaient. Mais pour l'instant, c'est surtout des entreprises qui donnent un petit coup de pouce. Tel cégep fabrique une pièce. Bon, mais c'est toujours des petits coups de pouce par-ci, par-là. C'est pas vraiment là un bon contrat pour finalement développer rapidement une quasi-turbine qui aurait pu servir à Hydro-Québec dans les barrages ou une quasi-turbine à combustion qui pourrait servir au moteur. Et finalement, placer le Québec sur la carte internationale de l'automobile, parce qu'on est presque complètement disparu, là, nous autres, là, du monde de l'automobile. Mais en fabriquant une pièce d'automobile très bien, c'est 90 millions de moteurs par année là, qui se fabriquent au monde. Donc, si on pouvait fabriquer ne serait-ce qu'une partie de ce moteur-là, Pour tout le monde, ben voilà, c'est un deuxième bombardier qu'on vient de mettre sur pied.
Oui, ça serait une grande affaire aussi pour la nature, pour l'écosystème.
Ben, et je comprends donc, vous le dites bien, là, parce qu'avec 60 moins de carburant utilisé dans les véhicules, ça veut dire qu'on pourrait atteindre, même dépasser les objectifs de Kyoto. Mm. C'est déjà une chose. Mais il n'y a pas seulement ça. Le moteur quasi-turbine diminue de 20 fois le bruit à la sortie du moteur. Donc, on n'a presque plus besoin de silencieux après. On a besoin d'un petit, mais enfin. De 500 fois la production des NOx. Les NOx, c'est N, ça veut dire azote, O, ça veut dire oxygène, et X, ça veut dire une valeur variable, OK? Mm-hmm. Donc, ça peut être NO2, NO3, NO4, NO5, etc. Et les moteurs à piston en produisent beaucoup de NOx. Et le NO2, entre autres, c'est quasiment mortel. C'est très, très dommageable pour la santé de tout être vivant. Alors, c'est pour ça que maintenant, on oblige à mettre des catalyseurs qui vont diminuer les NOx et qui vont diminuer aussi le CO, parce que les moteurs à piston produisent toujours du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone a cet inconvénient de s'allier aux globules rouges et de se fixer là. Donc, le globule rouge ne sert plus à la respiration. Donc, c'est une asphyxie que crée le monoxyde de carbone. Il faut absolument convertir le monoxyde de carbone en bioxyde de carbone. Et ça, le catalyseur des voitures le fait. Mais la quasi-turbine ne produit pas de monoxyde de carbone, que du bioxyde de carbone. Donc, on supprime le catalyseur. C'est la beauté de la machine, entre autres choses. Je pourrais en dire d'autres. Par exemple, c'est le seul moteur qui peut être aussi un compresseur et une pompe.
Oui.
Rien qu'en changeant les trous sur le stator, là, donc la pièce qui est plus ou moins ronde, là, on change les trous de place, puis ça devient une pompe. Puis on tourne, évidemment, à la place d'avoir un moteur, ça c'est sûr. Donc, c'est un concept universel pour les moteurs, les pompes et les compresseurs et qui est voué à un avenir absolument extraordinaire.
Et qui est aussi efficace au niveau de la puissance?
Ah oui, absolument. Si vous considérez une quasi-turbine de 2 pouces de haut par 6 pouces de diamètre, okay, à 3000 tours et sous 500 livres de pression d'air, okay, mm-hmm, ça va vous donner 120 chevaux. Qui est absolument énorme, avec un couple moteur de 250 livres-pieds.
Ouais.
Un moteur à piston ne peut pas faire ça. Et non seulement ça, mais le couple moteur est maximum au départ, tandis qu'avec un moteur à piston, il est maximum à 6000 tours-minute. Mais c'est vraiment là un renversement de la physique des moteurs, puis qui va ouvrir des perspectives considérables. Ceci dit, moi j'ai parlé d'un exemple du moteur à pneumatique, à air comprimé. Si on veut un moteur à combustion en utilisant de l'essence, des huiles quelconques, le gaz naturel, de la poussière de charbon, on met ce qu'on veut dedans. Hein? On peut commencer avec un carburant puis finir par un autre, sans problème. Alors si on prend un carburant, il faut augmenter le volume 8 fois. Parce que l'essence a moins de densité énergétique que l'air comprimé. Et surtout, à cause de la construction du moteur, il y a deux chambres qui fonctionnent en même temps en air comprimé, alors qu'il n'y a qu'une seule chambre qui sert à en pousser avec les carburants. Donc, pour ces raisons-là, on a une densité de puissance moins grande avec l'essence, mais sur le diagramme des puissances de moteur, de densité de puissance des moteurs, la quasi-turbine arrive au-dessus de tout, même des turbines d'avion. Ce qui fait que c'est un diagramme de Suzuki qui est visible dans le livre sur la quasi-turbine, disponible à la coop de l'Université de Laval, soit dit en passant.
Alors, Monsieur Rémiard, en terminant, pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller, oui, à Zone pour acheter le livre, mais sur Internet, sur Internet, où peuvent-ils trouver de l'information?
Bon.
Ou dans les journaux, vous avez parlé du Journal de Québec?
Bien, il y a le Journal de Québec du 2 février qui a publié une page complète sur la quasi-turbine.
Oui.
C'était la page 15. Du moins, dans le Journal de Montréal, c'est la page 15. Ça doit être la même à Québec, on présume. Voilà. Et il y a aussi le site quasiturbine.com pour ceux qui ont Internet. Et surtout, je leur conseille de lire le livre blanc de Myron D. Stokes. C'est le président d'un groupe de scientifiques américains qui a publié un livre blanc de 25 pages sur la quasi-turbine. Et ils ont envoyé ça à peu près à 5000 décideurs aux États-Unis. Et donc, c'est considéré par ce groupe de scientifiques comme vraiment la meilleure percée dans le domaine des moteurs depuis que le moteur à piston existe. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. Et il y a aussi l'Association de promotion des usages de la quasi-turbine dont vous parliez un petit peu au début. En fait, nous, on a comme vocation d'aider l'inventeur à faire connaître son invention, faire connaître le moteur quasi-turbine, et de créer des prototypes qui intègrent des quasi-turbines. Actuellement, nos membres travaillent sur une petite voiture qui va fonctionner avec deux quasi-turbines à air comprimé. Air comprimé, en fait, on va mettre de l'azote plutôt, on va utiliser de l'azote. On supprime la boîte de vitesse, puis on supprime le différentiel. Ça va être un prototype unique au monde, puis c'est le démarrage d'une nouvelle philosophie de construction des voitures. Alors, on peut en devenir membre de notre association simplement en allant sur le site. Ça se trouve être pureinvention.com, pureinvention.com, /APUQ. Puis là, il y a une case pour devenir membre. Ou encore, on peut accéder directement par courriel à APUQ, APUQ, pureinvention.com.
Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Rémiard, d'être venu nous parler aujourd'hui de la quasi-turbine, en espérant que cette invention va révolutionner bientôt et au plus vite nos modes de consommation d'énergie pétrolifère qui, évidemment, on le sait, qui nuisent beaucoup aux écosystèmes, et, etc.
Absolument. Merci. Et je remercie beaucoup, M. Bélanger et la radio de l'Université Laval d'avoir consacré quelques minutes à cette invention extraordinaire.
Merci, au revoir.
Au revoir.